ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce la vérité?
Pourquoi
RFI.
RFI dit ça.
Pourquoi RFI dit ça? Julia Trangeval.
Bonjour, cette semaine nous allons nous intéresser aux femmes. Sur RFI, nous avons des auditeurs plutôt que des auditrices. Si l'on considère tous ceux et toutes celles qui nous écoutent dans les 7 capitales d'Afrique francophone où nous sommes diffusés, on arrive à presque 13 millions d'auditeurs, dont 40% d'auditrices. Pas encore la parité donc, mais une véritable audience féminine des journaux et des programmes. Si l'on s'intéresse maintenant à celles qui prennent la parole sur l'antenne, on voit le nombre de femmes chuter brutalement à travers 2 émissions interactives que vous êtes nombreux à suivre sur notre antenne et sur les réseaux sociaux. 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide et Appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Nous allons essayer de comprendre pourquoi et comment convaincre les femmes de s'exprimer. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Juliette.
Bonjour Juliette.
Les auditrices sont-elles aussi réactives que les auditeurs sur notre antenne?
Je dirais que sur des sujets de société, donc pas vraiment politiques, on a une autocensure du côté des femmes très nette. Timidité, manque de temps. Il ne faut pas oublier que les femmes gèrent plein de journées à la fois. La vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle, les fêtes, les baptêmes, les funérailles. Tout ça, c'est sur les épaules des femmes. Donc, elles n'ont pas beaucoup de temps, elles ne sont pas très disponibles.
J'imagine que sur une émission politique comme Appel sur l'actualité, le constat, il est encore plus flagrant.
Ah bah, je vais être très clair. 1% de femmes, 99% de réactions d'hommes.
Depuis
je n'ai pas fait d'études sociologiques, mais depuis que l'émission existe, c'est ce pourcentage-là qui est la réalité. Les femmes, dès qu'il s'agit de parler politique, on le constate, elles réagissent via les réseaux sociaux, mais dès qu'on les rappelle pour leur dire « souhaitez-vous vous exprimer à l'antenne », elles vont, dans un premier temps, invoquer l'agenda, donc journée chargée, et de deux, la légitimité. Je ne suis pas légitime pour m'exprimer sur tel ou tel sujet politique. Pourtant, elles écoutent l'émission. Je rentre du Bénin. J'ai croisé, au hasard de mes rencontres, énormément de femmes qui connaissent l'émission, qui l'écoutent de façon assidue.
Et qui sont parfaitement au courant de la vie politique
dans
leur pays ailleurs.
Connaissent la vie politique. J'ai fait une émission en public. Il y avait des hommes et des femmes, majoritairement des hommes. Les femmes réagissaient comme les hommes. C'est-à-dire que quand il fallait applaudir, elles applaudissaient. Quand elles n'étaient pas contentes, elles levaient les bras au ciel, comme les hommes. Simplement, à la fin de l'émission, je leur ai dit « Mais mesdames, pourquoi n'avez-vous pas pris le micro RFI ?»« Ah, ça sera pour la prochaine fois. »
Sur des sujets de société, Emmanuel, qui sont peut-être plus concernants pour elles, qui font partie de leur vie multiple, on pourrait imaginer que là, la timidité, la pudeur, le manque de légitimité, ça disparaît un peu.
Alors, c'est vrai qu'elles peuvent tout d'un coup intervenir massivement, être nombreuses en tout cas à réagir sur des sujets intimes, sur des sujets de niche aussi. Ça peut être les femmes ingénieures par exemple, où elles se sentent directement concernées, où elles se sentent aussi investies d'une mission pour leurs sœurs.
Faire porter leur voix.
Exactement, et faire passer des messages, n'ayez pas peur, osez, etc. Je dirais que ces femmes-là sont des femmes puissantes. Ce sont des femmes qui sont plus diplômées que la moyenne des auditeurs, souvent aussi. C'est pour ça que je parlais d'autocensure. Quand elles interviennent, elles sont absolument sûres d'elles. Ou alors, ce sont des sujets intimes où elles en ont gros sur le cœur. Et là, tout d'un coup, il faut que ça sorte. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se libère et qu'elles s'expriment, peut-être pour aller mieux aussi.
Est-ce que le fait d'être une productrice, d'être une femme au micro, c'est une porte d'entrée supplémentaire, vous pensez, pour ces femmes?
Je suis pas certaine. Peut-être pour des sujets très intimes, sur le couple, par exemple. Oui, bien sûr, il y a peut-être une simplicité dans les questions, dans le dialogue entre nous. Mais les hommes se livrent aussi très facilement sur des sujets intimes, bizarrement. Je dirais que là, c'est vraiment quelque chose qui tient à l'audience subsaharienne. On a fait une fois une émission sur l'amitié masculine. Notre invité était très surpris. Il avait beaucoup de mal à avoir des témoignages d'hommes qui sont sous contrôle en France, qui ne se livrent pas. En Afrique, les hommes disaient « j'ai été trahi, mon meilleur ami ». Enfin, c'était vraiment...
Parler d'amour.
Il faisait pleurer dans les chaumières et c'est la même chose pour l'amour. Mais du coup, c'est vrai que ça prend trop de place par rapport aux femmes, souvent.
Juan, vous avez mentionné les réseaux sociaux. Est-ce que la présence de vos émissions sur WhatsApp, notamment, ça change pas quand même un petit peu la donne?
Alors, WhatsApp a drainé énormément de nouveaux auditeurs, c'est incontestable. Et forcément, dans le lot, évidemment, il y a plus de femmes. Mais comme je vous le disais il y a quelques instants, Juliette, les femmes vont nous envoyer un commentaire, leur point de vue sur telle ou telle situation politique. Mais je vous dis, au moment où nous les rappelons pour le passage à l'antenne, elles sont réticentes. Mais RFI est confronté à ce problème, comme toutes les radios sur le continent africain. Je le disais à l'instant, j'étais au Bénin la semaine dernière. Je me suis renseigné sur les émissions interactives. La radio nationale, effectivement, donne la parole sur des sujets politiques. La radio nationale est confrontée au même problème. Ce sont majoritairement des hommes qui appellent pour réagir, pour commenter. Un confrère sur place qui a sa propre radio a donc trouvé une solution. Est-ce la bonne ou pas? Pourquoi pas? Il faudra qu'on le teste, Emmanuel Bastide. Une ligne, un numéro de téléphone uniquement pour les hommes et un numéro de téléphone uniquement pour les femmes. Voilà. Mais alors là, pour le coup, sur des sujets de société, de la vie quotidienne.
Des lignes en non-mixité.
Voilà, exactement. Bon.
Ça revient à poser la question de la discrimination. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas?
Alors, est-ce faire. Que vous en faites, vous, de la
oui,
discrimination
moi,
positive?
Moi, je suis clair. Je dis systématiquement à mon équipe, dès qu'une femme souhaite prendre la parole dans l'émission, vous la basculez en direct. J'ai toujours cet espoir que cela fera boule de neige et que cela incitera les femmes qui sont à l'écoute à ce moment-là à décrocher leur téléphone ou à prendre leur téléphone et nous envoyer un message sur WhatsApp pour passer ensuite à l'antenne. J'ai cet espoir. L'espoir fait vivre. Peut-être qu'un jour...
Le cri du cœur.
Le cri du
roi domestique pour les femmes.
Et vous, Emmanuel?
Oui, nous, c'est la même chose. Entre deux témoignages moyens d'une femme ou d'un homme, on donne la priorité à une femme systématiquement, par souci d'équilibre, en fait. Hein. Mais les femmes appellent souvent à la fin de l'émission. Elles se manifestent peu à l'avance, contrairement aux hommes qui vont s'inscrire, répondre aux appels WhatsApp, etc. Oui, j'ai quelque chose à dire. Donc ça, les femmes le font beaucoup moins. Et donc, on n'hésite pas à prendre une femme qui va appeler, oui, en cours d'émission.
Et le fait d'avoir parfois, encore une fois, j'étais la semaine dernière au Bénin, j'ai fait une émission sur la menace djihadiste. J'avais le chef d'état-major de l'armée de l'air à ses côtés, deux expertes, deux femmes spécialistes de la menace djihadiste, du terrorisme. On se dit, bah, peut-être qu'en ayant des femmes sur le plateau pour analyser le contexte sous-régional, peut-être que cela incitera des femmes à appeler, pas une seule.
Mais écoutez, merci. On sait ce qu'il reste à faire pour toutes les auditrices des RFI. Appelez Appel sur Actualité, appelez 8 milliards de voisins, ça vaut le coup. Merci beaucoup à tous.
Merci Juliette.
Merci Juliette.
Pourquoi RFI dit ça?
Le 17e tour cycliste du Rwanda s'est achevé dimanche dernier, le 2 mars. Rendez-vous important du cyclisme mondial. Cette compétition fait aussi polémique en raison du soutien de Kigali au M23 dans le conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo. Ce tour, vous avez pu le vivre sur RFI. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Juliette.
Tout juste de retour du Rwanda. C'était votre premier tour cycliste de ce pays, d'Afrique des Grands Lacs?
C'était mon 4e tour du Rwanda, le premier en 2019. Et quand on s'essaye pour la première fois à la couverture de cette course, en général, on est piqué, on a envie d'y retourner. Je l'ai couvert ensuite en 2020, en 2023. Et donc pour la 4e fois cette année, édition évidemment particulière à double titre, puisque le Rwanda est impliqué dans le conflit à l'est de la RDC, puisque le Rwanda organise aussi les championnats du monde de cyclisme au mois de septembre, les premiers qui auront lieu sur le continent africain. C'est un événement qui suscite évidemment beaucoup d'attentes.
C'est pour ça que ce Tour du Rwanda, c'était un moment sportif important, hein, pour le calendrier sportif cycliste international.
En général, le Tour du Rwanda est une course importante en Afrique et à l'international, déjà parce qu'elle est très spectaculaire, dans des décors magnifiques aussi, avec une ferveur qui est comparable quand on interroge les coureurs uniquement autour de Colombie et autour de France. Ensuite, à l'échelle africaine, c'est le plus grand tour sur le continent, le plus important, puisque la Tropicale Amissa Bongo n'existe plus et que le Tour du Faso est déclassé désormais. Donc c'est un rendez-vous important puisqu'il permet aux cyclistes africains de se confronter à de très bons professionnels. Pour vous citer un nom, Christopher Froome, vainqueur 4 fois du Tour de France, avait participé à ce Tour du Rwanda.
Vous l'avez dit, hein, le Tour s'est déroulé alors que de l'autre côté de la frontière, il y a ce conflit qui fait rage depuis des semaines maintenant en République démocratique du Congo, avec d'un côté les troupes gouvernementales congolaises, de l'autre le groupe armé anti-gouvernemental du M23 qui est soutenu par le Rwanda. Est-ce que vous, Thomas, pendant ces jours de reportage, vous avez ressenti une atmosphère particulière.
Au départ, à Kigali, les jours précédents le coup d'envoi de cette course, on a senti une certaine tension, c'est vrai. D'une part, des coureurs, parce que ce sont souvent des jeunes coureurs venus d'Europe qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas l'Afrique, qui découvrent un continent, un pays, et en même temps qui apprennent que ce pays est impliqué dans un conflit. Donc forcément, ils y vont un peu le cœur lourd, même s'ils se renseignent et qu'ils se rendent compte pour la plupart que ça semble sécurisé, qu'en plus l'Union cycliste internationale à ce moment-là dit « vous pouvez y aller », toutes les mesures sont prises pour que la course se déroule en toute sécurité. Et du côté de l'organisation, on ne laissait rien apparaître, mais cette question-là n'était pas la bienvenue. Voilà, un tout petit peu de tension au départ. Ensuite, en réalité, même lorsqu'on s'est approché de la frontière congolaise, on y a passé 3 jours en tout, la course s'est déroulée dans une ambiance comparable aux jours précédents, que ce soit au niveau de la foule. Les coureurs, pour le coup, à ce moment-là, étaient rassurés, ils nous l'ont dit. Je me rappelle ces paroles d'un coureur belge. On n'a pas l'impression qu'il y a eu la guerre ici il y a quelques jours, puisque quand on parle de la ville de Gisenyi qui fait face à Goma, elle a été elle-même touchée au mois de janvier. Donc, on n'avait pas ce sentiment-là d'insécurité. La foule a participé tout à fait normalement dans une ambiance joyeuse à cette course, même si on sait que de l'autre côté, la situation est beaucoup plus précaire. Des cyclistes congolais, d'ailleurs, avaient traversé la frontière pour venir assister à cette arrivée à Gisenyi. Eux, ils ont pris des risques pour venir assister à cette course, puisqu'on sait que la frontière, à ce moment-là en tout cas, était sécurisée, mais sortir de leur ville restait dangereux.
Des cyclistes congolais sont là, plus discrets, moins nombreux que ces dernières années. Daniel est l'un d'eux.
Je suis venu regarder les champions, les professionnels, parce que je suis passionné du vélo.
Et parmi ces champions, des Rwandais avec qui Daniel avait l'habitude de s'entraîner. Entre eux, le contact est maintenu.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est les sports. Donc, on parle seulement du sport. La politique, ça nous touche. Ça nous touche quand il y a la guerre, quand nos proches sont tués. Mais ça ne donne pas l'autorisation de prendre les autres comme nos ennemis.
Daniel dit aujourd'hui ne vouloir qu'une chose, la paix, pour pouvoir revivre et rouler. Thomas de Saint-Léger, Gisenyi, RFI.
La tenue de ce tour, donc, elle se déroule sous une pression que vous racontez sur place, mais avec une pression internationale, elle, qui est de plus en plus considérable. On a vu que, par exemple, les Belges avaient donné de la voix, qu'une équipe belge qui s'appelle Soudal Quickstep,
c'est ça,
avait décidé de se retirer de l'épreuve par crainte pour la sécurité. Christophe Jousset, vous êtes avec nous dans ce studio également. Vous êtes le chef du service des sports. Bonjour.
Bonjour.
Cette question de maintenir ou non la couverture du Tour du Rwanda, est-ce qu'à RFI, on se l'est posé pendant les conférences de rédaction dans les jours qui ont précédé le départ de la course?
Oui, ça a généré beaucoup de discussions à l'intérieur de RFI. Un débat éditorial qui a été guidé avant tout par le principe qui est un principe absolu chez les journalistes, à savoir la neutralité. Autrement dit, dans ce cas-là, on n'est ni dans le camp de la RDC, ni dans le camp du Rwanda. Ça vaut pour la couverture du conflit, évidemment, mais ça vaut aussi pour la couverture d'une épreuve sportive qui se déroulait parfois à quelques kilomètres de la zone de conflit. Alors, nous avons décidé de maintenir la couverture, d'abord parce que, Thomas le disait, nous couvrons ce Tour du Rwanda depuis longtemps, depuis qu'il est devenu un tour international, et ensuite parce que c'est une édition particulière avec l'approche des premiers mondiaux de cyclisme en Afrique. Et pour nous, sur RFI, racontons l'avancée, les progrès, l'histoire du cyclisme africain depuis tellement d'années, c'est un événement évidemment considérable. Il était naturellement hors de question de faire comme si le conflit n'existait pas. Donc nous avons renoncé pour cette année à ce qu'on appelle la carte postale. Il s'agit du premier direct de l'envoyé spécial chaque matin, au matin de chaque jour de course, pour décrire le décor, l'ambiance dans le peloton, la présence du public au départ. Ce direct qui peut se faire facilement sur un ton un peu léger. Ça aurait été évidemment totalement déplacé, hors de propos cette année, quand tant de gens sont dans la souffrance dans la région. Bien sûr, nous avons raconté la course, mais nous avons aussi rendu compte, rappelé aussi souvent que nécessaire, la situation sécuritaire et politique dans laquelle ce Tour du Rwanda a eu lieu.
Ce travail d'arbitrage, Christophe, il revient souvent quand on parle de sport. Il arrive souvent que des épreuves se déroulent dans un contexte politique ou sécuritaire qui est tendu.
Oui, c'est assez classique et à chaque fois, il y a toujours des voix qui s'élève pour dire comment pouvez-vous parler de sport alors qu'il y a la guerre à côté. Je crois qu'il est possible de raconter une épreuve sportive sans s'enfermer dans une bulle où on ferait abstraction de l'environnement. Nous sommes conscients, bien sûr, que ces épreuves sportives ont une dimension politique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les pays se servent du sport pour rayonner davantage, c'est ce qu'on appelle le soft power. Je pense notamment à la dernière Coupe du Monde de foot au Qatar. Personne n'a oublié les débats sur la pertinence d'aller couvrir le mondial de foot dans un pays qui était notamment accusé de ne pas respecter les droits humains et d'ignorer l'état de l'environnement avec ses stades climatisés. Eh bien, nous avons couvert cette Coupe du Monde en faisant cohabiter sur notre antenne et sur nos réseaux les sujets foot et les sujets société, les sujets qui décrivaient l'état de la société qatarienne.
Merci Christophe Jousset, merci Thomas de Saint-Léger.
Bonne journée.
The European Union was formed in order to screw the United States.
He is such a pussy.
But I won't believe a word till I watch you turn your bullshit into gold.
Pourquoi RFI dit ça ? Comme ça, bonjour Frédéric Genot.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Alors cette semaine, Frédéric, on pourrait presque dire pourquoi RFI n'a pas dit ça comme ça ?
Oui, ou pourquoi on n'a pas diffusé les propos tenus par telle ou telle personne. La question s'est notamment posée en début de semaine avec un reportage de notre correspondante à Kiev, ou Kiev, comme elle le dit elle-même. Emmanuel Chaz avait recueilli les réactions de soldats après cette altercation ahurissante entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Nous en avons beaucoup parlé à l'antenne. Le président ukrainien vient pour signer un accord avec les États-Unis sur l'accès aux minerais et il se voit reprocher son manque de gratitude en direct à la télévision. Il est piégé, humilié. C'est une scène d'une violence inouïe. Le lendemain, notre correspondante en Ukraine recueille le sentiment de plusieurs soldats et avant de nous l'envoyer, elle demande jusqu'où on peut aller dans la brutalité des propos. La rédactrice en chef lui donne un exemple d'un mot qui passe, salaud, et d'un mot qui ne passe pas, donc je ne vous le dis pas. En l'occurrence, les soldats estimaient en des mots très crus que le président ukrainien aurait dû retourner son homologue états-unien sur la table pour lui faire subir les derniers outrages.
Ah oui, et à l'antenne finalement ça donnait quoi ?
En réécoutant l'ensemble de l'entretien, il a été possible de trouver des passages tout à fait diffusables. Alors, ils traduisaient sans doute moins l'émotion immense de ces soldats, mais ils apportaient un point de vue. On les a ainsi entendus dire « c'est démoralisant et ce n'est pas le type de soutien qu'on attendait ». Mais c'est la vie et on espère obtenir le soutien de nouveaux alliés.
Est-ce que cet embarras, Frédéric, face à la crudité des propos, est exceptionnel ?
Il n'y a pas si longtemps, Juliette, nous aurions pu dire oui, mais nous assistons bel et bien à une banalisation de la vulgarité. Ainsi, il y a 2 semaines, Jordan Bardella a renoncé à la dernière minute à participer à un rassemblement trumpiste à Washington parce que l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, avait fait un geste faisant référence à l'idéologie nazie. Quelle a été la réaction de Steve Bannon ? On ne cite pas tout, Juliette, hein, juste une phrase, sans la partie qui pourrait nous valoir des poursuites pour homophobie. If he doesn't have the balls to come here and face this media, s'il n'a pas les couilles de venir et d'affronter ces médias, he's a pussy. And a pussy is not going to lead France, ce qui a été traduit par « c'est une fillette » et « une fillette ne va pas diriger la France ».
On aurait pu le traduire autrement ?
On aurait pu. Et d'ailleurs, il y a eu un vrai débat sémantique à propos d'une phrase de Donald Trump quelques jours plus tard. Les propos en version originale sont « Let's be honest, the European Union was formed in order to screw the United States ». Dans le feu de l'action, la première traduction a été « L'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis ». On a bien entendu Guillaume Nodin, notre envoyé spécial permanent à Washington, lui préférer le mot « entubé », qui est familier, hein. Se faire entuber, c'est parfois se faire avoir, parfois subir une relation sexuelle non consentie. Un journaliste considère même qu'entuber est une version encore trop polissée des propos de Donald Trump.
Est-ce qu'il vaut mieux être fidèle aux propos tenus ou respectueux des auditeurs et donc préserver une certaine tenue ?
Jusqu'à présent, nous avons fait ce choix, celui qui permet aux enfants de rester près ou pas trop loin du poste de radio. Les médias états-uniens qui, eux, n'ont pas la possibilité de traduire et donc de lisser les propos sont parfois bien embarrassés par cette vulgarité. Mais il va falloir s'y faire parce que c'est désormais ainsi que s'expriment plusieurs responsables politiques et pas seulement aux États-Unis.
Pourquoi RFI dit ça ? À la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.